du marché américain. C'est encore très tôt, mais enfin, on ne s'attend pas vraiment à une hausse à l'ouverture. Sur le marché d'échange, là, c'est le calme le plus complet depuis deux jours. Le dollar reste aux environs de 1,15$. Il est à 1,1477$ pour 1 euro, ce qui veut dire que l'euro progresse de 0,07%. Autant dire que c'est la stabilité qui l'emporte. En revanche, sur les valeurs, on continue à consolider, moins 0,82% pour le CAC 40 à la Bourse de Paris. Pour France Inter, Jean-Pierre Gaillard.
Et on termine tout de suite par les résultats de la première course à Nantes. Il y avait des noms partants, le 6 et le 11, la combinaison gagnante du Quintet Plus. Premier, le 17, deuxième, l'As, troisième, le 5, quatrième, le 18 et le cinquième, le 9. Vous écoutez France Inter, l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
Bonjour Agnès et bonjour à tous. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie française.
Mademoiselle, est-ce que vous savez ce que c'est que la franc-maçonnerie ?
C'est similaire à une mafia, non ?
Je crois qu'ils ont un trois points quelque part, mais je sais pas où.
Je crois que c'est une secte, de toute façon, qui est très ancienne.
C'est celui qui veut la maçonnerie, non ?
Vous me croyez vraiment ?
Oh, je sais pas, mais enfin, il y a maçon dedans.
Je crois que ce sont des gens très dangereux d'une part, très influents aussi.
Est-ce que vous les connaissez ?
J'en ai jamais vu.
D'histoire. En dehors de ses 130 000 membres, peu de gens, on vient de l'entendre, connaissent la franc-maçonnerie. Venue d'Angleterre en France il y a presque trois siècles, elle y a apporté ses idéaux, ses symboles et un goût du secret qui a servi de prétexte à tous les soupçons, à tous les fantasmes et même à la persécution dont elle a été la victime à l'époque de l'occupation. Et si depuis la guerre, la franc-maçonnerie française a levé le voile sur un grand nombre de ses mystères, son réseau d'influence, sa puissance réelle ou supposée, ses symboles étranges et son rituel ésotérique continuent de susciter la même fascination qu'autrefois.
Qui êtes-vous ? Votre candidat errant dans les ténèbres, qui se présente à vous de son plein gré, dûment préparé, et qui demande à être initié par tes frères au mystère et au privilège.
En situation de danger et de détresse, auprès de qui places-tu ta confiance ?
En Dieu.
Récite le serment solennel.
Je jure de ne pas révéler nos secrets, sinon j'encours la peine rituelle. Qu'on me tranche sans pitié la gorge, qu'on m'arrache la langue à partir de la racine, et que l'on m'ensevelisse dans le sable, là où les vagues retombent en écume.
Que le frère reçoive la lumière.
Roger Daché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Institut maçonnique de France et auteur d'une histoire de la franc-maçonnerie française qui vient de sortir dans la collection Que sais-je. Est-ce que l'initiation d'un maçon ressemble à ce que l'on vient d'entendre dans cet extrait de film ?
Alors, ce qu'on vient d'entendre vient d'Angleterre. Et en Angleterre, le rituel maçonnique est en usage. Est extrêmement proche de celui qu'on vient d'entendre, mais il en est à peu près de même en France, avec un certain nombre de nuances.
Vous dites d'Angleterre parce qu'il y a une référence à Dieu, hein, je crois, alors que la franc-maçonnerie française a la réputation plutôt d'être anticléricale.
Alors c'est une réputation qui ne correspond pas totalement à la réalité. La position de la maçonnerie française est une position plus complexe et surtout plus récente. Mais en Angleterre, d'où la maçonnerie est venue, il est vrai que l'affirmation du caractère déiste de la franc-maçonnerie n'a jamais été contestée jusqu'à nos jours.
Alors, Roger Daché, justement, elle est venue d'Angleterre, je crois que c'est au début du 18e siècle. À quoi correspondait, d'ailleurs, aussi bien en Angleterre qu'en France, l'attrait que certains éprouvaient pour la maçonnerie, le fait qu'ils y entraient ? Pourquoi devenait-on maçon ? Quelle valeur recherchait-on dans la franc-maçonnerie ?
Dans la mesure où c'est né en Angleterre, le climat de l'Angleterre au début du 18e siècle, à la fin du 17e et au début du 18e siècle, permet en grande partie de le comprendre. C'est un pays qui, depuis près de deux siècles, avait été déchiré par des guerres dynastiques et religieuses et qui cherchait à refaire son unité morale. Et la maçonnerie a été une des manifestations de cette sociabilité de la paix civile retrouvée qui s'établit sous la dynastie des Hanovres, c'est-à-dire dans les premières années du 18e siècle. Donc c'est très lié à l'histoire sociale de l'Angleterre.
Mais il y a des valeurs aussi que l'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui, dont se réclame encore la franc-maçonnerie.
Bien entendu, il y a des valeurs qui sont fondatrices de cette sociabilité et qui d'ailleurs, à l'époque, vont également être partagées en France par la jeune maçonnerie française, qui est au fond la plus ancienne maçonnerie au monde après la maçonnerie anglaise. Et parmi ces valeurs, il y en a une qui est vraiment majeure, qui est la valeur de fraternité, de solidarité, d'amour fraternel, de recherche, en quelque sorte, de la compréhension de l'autre.
Alors, elle arrive en France à l'époque de Louis XV, au début du XVIIIe siècle. D'ailleurs, on s'est même demandé si Louis XV n'était pas maçon, parce que au fond, ce qui est frappant, c'est que qui est intéressé, qui entre dans les loges, dans les premières loges en France, c'est les aristocrates surtout.
C'est essentiellement les aristocrates, parce que la maçonnerie arrive en France dans les premières années du XVIIIe siècle, par l'intermédiaire d'aristocrates britanniques, pas seulement des Anglais d'ailleurs, mais aussi des Écossais et des Irlandais. Comme vous savez, c'est pas du tout la même chose, qui sont exilés pour des raisons politiques ou religieuses. Mais c'est essentiellement un milieu aristocratique. Ils vont être reçus en France par leurs collègues, que sont les aristocrates français, et c'est d'abord dans ce milieu, et même très près de l'entourage du jeune roi Louis XV, que la maçonnerie va s'installer en France à l'origine.
Il y avait le comte de Clermont, qui était un prince de sang, qui était un des premiers grands maîtres.
Alors c'est un personnage considérable, son nom complet c'est Louis-Antoine de Bourbon-Condé, c'est un prince du sang, c'est la branche de la famille qui vient juste après la branche d'Orléans, et c'est un prince extrêmement important. Il va accepter de couvrir de son autorité morale la maçonnerie, ce qui va d'ailleurs la protéger à partir de 1743, et il la couvrira de son ombre tutélaire en quelque sorte pendant 30 ans.
En tout cas, cette franc-maçonnerie française adopte aussitôt un rituel et un vocabulaire qui n'a pas beaucoup changé depuis deux siècles. Écoutez ce reportage dans une loge réalisé par le magazine Tabou en 1985.
En pénétrant dans ce lieu qui deviendra temple, tournons notre regard vers le ciel. Que le grand architecte de l'univers donne lumière à l'incréé et au créé, qui nous permettent de discerner le blanc dans les ténèbres. Puissions-nous nous inspirer de la veuve, des fondations éternelles de la règle et du temple de vie. Mon frère orateur, le moment est-il juste ?
Vénérable maître, nous avons atteint la place de lumière. L'épée et le maillet sont dans les mains du maître pour illuminer le temple.
Mon frère second surveillant, comment doit commencer la création du temple ?
Par l'Orient, vénérable maître.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la franc-maçonnerie.
Et c'était Formons la chaîne, chanté par Gratias et Vibert, une chanson de la franc-maçonnerie en 1930. À quoi correspond, Roger Daché, tout ce rituel, tout ce vocabulaire des maçons ?
Alors ça, c'est à la fois le grand mystère, la grande particularité, on pourrait dire le grand secret de la réussite et surtout de la pérennité de l'institution maçonnique. La maçonnerie, à travers l'extraordinaire diversité de son histoire et de ses destins, notamment en France, depuis près de trois siècles, a un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est sa structure rituelle et son appareil symbolique.
Mais ces symboles viennent pour la plupart de la préhistoire, si je puis dire, de la franc-maçonnerie, de l'époque des bâtisseurs de cathédrales dont on dit qu'ils sont à l'origine de la maçonnerie.
En effet, il y a
l'équerre, le compas, le tablier des maçons, etc.
Voilà, il y a une métaphore fondatrice dans la maçonnerie qui se réfère au métier de bâtir, et en particulier avec cette référence naturellement mythique, légendaire, mais importante, parce que c'est celle qui donne du sens aux constructeurs de cathédrales. Et tout le processus intellectuel et moral dans lequel les maçons essaient de se couler consiste, comme ils le disent, à construire une cathédrale intérieure. Et on établit en permanence une sorte de parallèle entre le fait de bâtir un édifice de pierre, et pas n'importe lequel, puisque c'est une cathédrale, et le fait de construire l'homme intérieur, ce qui est le fait du travail maçonnique, non plus opératif, comme on dit, mais spéculatif, puisqu'aujourd'hui, les maçons, dans les loges, ne manient plus ni la truelle, ni le mortier.
Et puis, il y a aussi, vous le disiez, Roger Daché, le secret auquel sont tenus les francs-maçons, et qui sert de prétexte à toutes les attaques dont ils sont victimes dès le XVIIIe siècle. La revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, dès le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie inquiète l'Église d'abord. En 1738, la bulle In Eminenti du pape Clément XII réagit vigoureusement. Nous avons appris qu'il se répand chaque jour avec de nouveaux progrès certaines sociétés nommées de francs-maçons, dans lesquelles des hommes affectant une apparence d'honnêteté naturelle se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable et s'engagent à cacher tout ce qu'ils font dans l'obscurité du secret. En des francs-maçons dont Clément XII ordonne fermement l'excommunication. En 1884, donc bien après, dans un contexte très différent, le Vatican publiera une nouvelle bulle contre la franc-maçonnerie, accusée de multiplier les attaques contre l'Église. Alors, dans la France du XVIIIe siècle, les francs-maçons, soupçonnés surtout d'ivrognerie et d'homosexualité, inspirent plus l'ironie que l'hostilité. Voltaire, par exemple, se moque, je cite, « de nos pauvres francs-maçons qui jurent de ne point parler de leurs mystères. Ces mystères, dit-il, sont bien plats. » Et Napoléon dira de la franc-maçonnerie « c'est un tas d'imbéciles qui s'assemblent pour faire bonne chère et exécuter quelques folies ridicules. Néanmoins, concède Napoléon, ils font de temps à autre de bonnes actions. Ils ont aidé dans la révolution, hein, pragmatique, Napoléon. Alors, l'idée que la révolution serait née d'un complot maçonnique, on la doit à l'abbé Baruel, un penseur de la contre-révolution. Dans cette révolution française, dit-il, tout, jusqu'à ses forfaits les plus épouvantables, tout a été prévu, médité, combiné par des hommes qui avaient seuls les fils des conspirations longtemps ourdies dans les sociétés secrètes. Alors, à la fin du XIXe siècle, une nouvelle paranoïa apparaît, les francs-maçons sont partout. En 1867, par exemple, un certain monseigneur de Ségur l'affirme, les militaires abondent dans la franc-maçonnerie, et aussi les juifs et les cabaretiers. Il y a un chef unique et inconnu qui reste dans l'ombre. Alors, pendant l'affaire Dreyfus, anti-maçonnisme et antisémitisme font bon ménage. Édouard Drumont, le fameux antisémite, n'hésite pas à affirmer « La franc-maçonnerie n'est qu'une machine de guerre inventée par les juifs pour conquérir le monde et réaliser leur rêve d'universelle domination ». En 1905, pourtant, éclate un scandale qui n'est pas vraiment à l'honneur de la franc-maçonnerie. C'est l'affaire des fiches qui révèle son emprise sur la Troisième République d'avant 1914. Alors, on apprend que le général André, ministre de la guerre, franc-maçon, tenait un registre secret sur les officiers loyaux et les autres, cléricaux et réactionnaire. Une affaire révélée par un ancien maçon, Jean Bideguin. Jamais aucun régime, dit-il, n'a été plus secret, plus mystérieux que la Troisième République.
Beaucoup de critiques, Roger Daché, dès la naissance de la franc-maçonnerie. Peut-être beaucoup de réponses aussi de votre part. D'abord, pourquoi les critiques viennent-elles d'abord du clergé, même du pape, on l'a entendu dès le XVIIIe siècle, alors que la franc-maçonnerie à ses origines se réclame de Dieu, de l'existence
oui,
de Dieu.
Oui, mais au XVIIIe siècle, la maçonnerie va être condamnée par le pape pour une raison assez simple, parce qu'elle vient d'Angleterre. Et en Angleterre, on trouve des antipapistes. Et par conséquent, la crainte de l'Église catholique qui, au XVIIIe siècle, considère qu'il est de son devoir d'intervenir dans la vie civile, on n'est pas du tout dans un régime de séparation de l'Église et de l'État. La conviction de l'Église catholique, c'est qu'elle doit lutter contre l'hérésie. Et cette association d'hommes qui viennent d'Angleterre et qui se réunissent à huis clos, ça ne peut être que suspect. Et il faut remarquer que dès 1738, le pape ne connaît pratiquement rien à la franc-maçonnerie. Il n'y a pratiquement eu aucun document de publié, mais sur la seule idée que ce sont des gens qui se réunissent en secret et dit son texte, qui réunissent des gens de toute confession, l'association est condamnée.
Alors, autre critique, du moins venant de ceux qui condamnent la révolution, comme l'abbé Baruel, elle serait responsable de la révolution. C'est vrai, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, que par exemple, Philippe Égalité, le cousin de Louis XVI, qui a joué un grand rôle au début de la révolution, a été grand maître.
Il a été grand maître, mais il faut dire deux choses. La première, c'est qu'il n'a jamais administré directement le Grand Orient de France. Celui qui l'a administré, qui était son bras droit, c'était le duc de Montmorency-Luxembourg, qui est le vrai chef du Grand Orient, et qui a une autre caractéristique, c'est que c'est le premier émigré de France, c'est-à-dire que lui, il émigre dès le 15 juillet 1789. Et deuxièmement, en 1793, Philippe d'Orléans a officiellement renié la maçonnerie en disant que c'était un fantôme et que désormais il préférait la réalité qui était celle de la République.
Ça veut dire, on dit que la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, était inspirée par la maçonnerie.
Ce qui est vrai, c'est que la maçonnerie en 1848 a récupéré la devise de la République. On a longtemps cru, on a longtemps dit que la maçonnerie avait donné sa devise à la République, ce n'est pas rigoureusement vrai. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'un certain nombre de valeurs, et en particulier celles de fraternité et d'égalité, sont des valeurs qui ont été cultivées par les maçons dès le XVIIIe siècle.
Alors cela dit, elle a été beaucoup critiquée. Elle n'a jamais été vraiment persécutée jusqu'au régime de Vichy. Par exemple, elle a été protégée et contrôlée par Bonaparte, hein, qui a fait de son frère le grand maître de la maçonnerie française. Elle a été également protégée sous la Restauration. C'est demandé si Charles X, vous le dites, n'a pas été maçon. Le Second Empire également l'a protégée. Elle a joué, vous l'avez dit aussi, un grand rôle en 1830 et en 1848. Mais alors vraiment, l'apogée, l'âge d'or de la maçonnerie française, c'est la Troisième République, Roger Dachier.
Alors, c'est à la fois son âge d'or et la période la plus dangereuse de son histoire. Parce que c'est au terme d'un long processus qui est propre à la France et qui fait que, j'allais dire presque contre elle-même, la maçonnerie a été entraînée dans le combat pour l'établissement de la République et la séparation de l'Église et de l'État. Lorsque elle est arrivée près du but, notamment après 1875 et la proclamation de la République, elle s'est trouvée en quelque sorte aux affaires. Et a priori, elle n'était pas forcément préparée à cela, ni faite pour cela. Mais c'est vrai qu'un grand nombre de maçons qui ont établi la République et qui ont préparé la séparation de l'Église et de l'État, étaient aux affaires à ce moment-là. Et la maçonnerie s'est, pendant une cinquantaine d'années, quasiment identifiée à l'appareil d'État en France.
Elle a participé à l'affaire Dreyfus du côté, bien sûr, des Dreyfusards. Elle a joué un grand rôle dans la querelle pour la laïcité. Vous m'aviez même dit tout à l'heure qu'elle dictait littéralement le programme du Conseil des ministres.
Alors, on a un exemple vers la fin des années 1890 où, dans une séance du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, les 33 membres assemblés, donc qui représentent les grands dignitaires de la maçonnerie française, établissent pratiquement le programme du gouvernement pour l'année qui vient.
Extraordinaire. En tout cas, elle est tellement présente que lorsque la Troisième République est renversée par le régime de Vichy, celui-ci se lance dans une politique anti-maçonnique comme les francs-maçons n'en ont jamais connu encore en France, avec des lois contre les loges qui sont dissoutes, avec une exposition anti-maçonnique et aussi un film de propagande, Forces occultes, qui sort sur un cinéma des Champs-Élysées en 1943 et qui est accueilli bien sûr avec la bienveillance de la radio, de la collaboration.
Voilà enfin de la pellicule bien employée. Dédié aux Français, hélas trop nombreux, qui ont la mémoire courte, le film n'a qu'un objet. Révéler au public ce que fut, dans la France d'avant-guerre, l'action de la franc-maçonnerie, lui montrer comment les loges ont délibérément, en pleine connaissance de cause, conduit le pays à la guerre souhaitée, voulue par Israël.
Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre! Que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie.
C'était un extrait du film Forces occultes. À quoi correspondait, à l'époque de Vichy, Roger Dachier, cette espèce d'acharnement, non seulement d'ailleurs contre la maçonnerie, mais contre ce qu'on appelle la judéo-maçonnerie?
En réalité, l'état de Vichy, c'est l'arrivée au pouvoir de toute une frange de l'opinion publique française qui était marquée par une hostilité déterminée à la République et à tous ceux qui soutenaient la République. Et évidemment, dès 1938, un très grand historien de la maçonnerie, qui s'appelait Albert Lantoile, avait écrit un livre prophétique dans lequel il disait « Si demain la République s'écroule, la maçonnerie sera dans les décombres ». Et en définitive, lorsqu'on a vu tous ces hommes élevés dans le culte maurassien parvenir au pouvoir, eh bien le bouc émissaire idéal pour expliquer la défaite de la France, c'était évidemment la maçonnerie.
Et ainsi, vous le dites, que 1000 francs-maçons ont été déportés, dont 600 ne sont pas revenus des camps de concentration. Ils sont très présents dans la résistance, mais enfin, elle est très, très affaiblie en 1944, au moment de la libération. Et elle va mettre beaucoup de temps à se reconstituer après la guerre, et surtout, d'autant plus qu'elle se divise de plus en plus. Est-ce qu'on peut compter aujourd'hui le nombre d'obédiences, c'est-à-dire de fédérations de loges qui existent en France aujourd'hui?
Alors, il faut dire que dans la plupart des pays où la maçonnerie existe, il y a généralement une, deux ou trois obédiences. En France, on en compte à peu près une bonne douzaine identifiées, mais il existe des centaines de groupuscules qui revendiquent la qualité maçonnique. Au point qu'il a fallu, dans l'actualité récente, que les principales obédiences se détermine et en quelque sorte attribue le label maçonnique parce qu'elle-même parfois avait de la difficulté à repérer ce qui était vraiment maçonnique avec un risque énorme qui est évidemment celui de l'infiltration sectaire.
Alors, ces grandes obédiences, vous les rappelez aussi, hein, on peut les citer les plus importantes, en tout cas le Grand Orient, hein, qui je crois aujourd'hui a 45 000 membres, la Grande Loge Nationale de France, 30 000, la Grande Loge, 26 000, le Droit Humain, 14 000. À quoi correspondent, quelle différence y a-t-il entre ces obédiences, notamment les plus importantes, le Grand Orient et la Grande Loge, Roger Daché?
D'abord, il faut dire que toutes ces obédiences existent parce qu'elles correspondent à des phases successives de l'histoire de la maçonnerie, qui est émaillée de ruptures, de rencontres, de trouvailles, de divergences d'appréciation sur des aspects qui tiennent à la gestion de l'obédience ou au choix des rituels. Et tout ceci laisse des traces, en quelque sorte, et ces obédiences sont comme autant de strates de l'histoire maçonnique française. Alors, ceci étant, aujourd'hui, elles existent toutes en même temps, simultanément, et on peut dire que, globalement, les différences qui existent entre elles sont des différences de culture, de comportement, de gestion de la vie des loges, de sensibilité aussi. Par exemple, il y a un aspect qui est important pour distinguer les obédiences les unes par rapport aux autres, c'est leur attitude vis-à-vis de ce qu'on appelle l'extériorisation. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut intervenir dans le monde extérieur, les maçons disent le monde profane, en tant que tel, en tant qu'institution, ou bien faut-il que les maçons le fassent à titre, je dirais, individuel et anonyme ? Là, sur ce point-là, les obédiences n'ont pas forcément la même vision des choses.
Il y a une obédience dont je n'ai pas parlé, qui est la Grande Loge Féminine de France, qui a été créée en 1952. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de femmes encore, justement,
alors,
en 1952, dans la maçonnerie?
Au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de femmes, parce que la femme n'avait pas de statut civil. Et pour cette raison, dès 1723, dans le grand texte qui structure la maçonnerie en Angleterre, on dit qu'on ne peut pas recevoir les esclaves, les gens immoraux et les femmes, qui sont mis en quelque sorte dans le même sac. En France, c'est un peu la même chose, sauf que le statut de la femme dans la pure tradition de la galanterie française va faire qu'une maçonnerie qu'on appelle maçonnerie d'adoption, une espèce de maçonnerie un peu au rabais, va se développer au XVIIIe siècle. Mais l'introduction de la femme dans la maçonnerie, c'est vraiment avec la naissance du mouvement féministe à la fin du XIXe siècle et avec la création, dans les dernières années du XIXe siècle, de la première grande obédience mixte qui est le droit humain.
Et puis alors donc depuis aussi la Grande Loge Féminine de France, je crois qu'il compte à peu près plus de 10 000 membres. Alors c'est peut-être une des raisons aussi, Roger Daché, de l'augmentation spectaculaire des effectifs de la maçonnerie. Aujourd'hui, il y a 130 000 francs-maçons, ce qui est deux fois plus qu'il y a 20 ans.
En effet, il y a aujourd'hui un grand appel vers les loges et ça pose un double problème. D'abord, il faut vérifier le recrutement parce que quand il y a trop de demandes, trop d'adhésions, on peut parfois se tromper sur la nature et sur les motivations profondes des gens qui veulent entrer en maçonnerie, parce qu'il y a tout un passé, il y a plein de malentendus, il y a plein de fantasmes. Ça, c'est le premier problème. Et puis, le deuxième problème, c'est néanmoins de répondre à cette demande. Je pense que dans un siècle où les grandes églises ont périclité, où parfois les engagements politiques ont déçu, la maçonnerie apparaît comme un lieu intermédiaire où on peut à la fois conduire un cheminement personnel et en même temps un engagement citoyen.
L'augmentation des effectifs, vous venez de le dire à l'instant, a permis à des candidats quand même peu scrupuleux d'entrer dans la franc-maçonnerie et de s'y livrer d'ailleurs à des pratiques douteuses. Écoutez, le juge Elfen, au micro de Stéphane Paoli, réagir à une des très nombreuses affaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années. France Inter, Jean-Marc Four, le 7 juin 2001.
À Nice, le doyen des juges d'instruction est en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction afin d'obtenir des renseignements pour une loge maçonnique.
Effectivement, on retrouve des francs-maçons dans un bon nombre d'affaires politico-financières. En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, effectivement, je trouve ça absolument anormal.
Ce sont des systèmes qui s'autoprotègent ?
Absolument, oui. C'est le but quand même de la franc-maçonnerie.
Au départ, c'était la justice pour tous et c'est devenu la justice pour les frères ou l'injustice pour les frères. Il y a un système d'entraide qui est parallèle à la société officielle et je pense que c'est aussi très dangereux pour la démocratie. Il est évident qu'un juge qui a un dossier concernant un de ses frères ne va pas juger de la même façon que si c'était quelqu'un qu'il ne connaissait pas du tout.
C'était le juge Alphen au micro de Stéphane Paoli il y a quelques mois, réagissant à une affaire vraiment qui ressemble un peu à l'affaire des fiches il y a 100 ans et que rappelait Stéphanie à l'instant.
Oui, avec une différence importante, c'est que l'affaire des fiches, c'est vraiment impardonnable, parce que c'est l'appareil d'État, en quelque sorte, qui organise la sélection de la carrière des militaires en fonction de leurs opinions religieuses ou politiques, alors que dans l'affaire qu'évoque le juge Alphen, il s'agit de l'initiative personnelle d'un membre d'une loge qui a été condamné, en définitive, par la maçonnerie elle-même. Et on ne peut que qu'approuver les propos du juge Alphen quand il dit que ça n'est pas normal qu'un réseau, qu'un lobby plus ou moins secret puisse utiliser des documents publics à son profit. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas ce que la maçonnerie recommande. Ce sont des dévoiements personnels, individuels, que la maçonnerie condamne.
Oui, mais il y a des affaires qui continuent. Encore, il y en a une tout récemment qui vient de se produire à la Grande Loge féminine de France avec la Grande Maîtresse, qui d'ailleurs a été virée, je crois, de la franc-maçonnerie. On a l'impression, c'est quand même, c'est très, on a l'impression qu'elle s'est vraiment éloignée de ses valeurs initiales, Roger Daché.
Je crois que toute communauté humaine, à un moment ou à un autre, peut être victime des faiblesses de la nature humaine. La difficulté, c'est que pendant très longtemps, la maçonnerie a en quelque sorte écarté tout cela, n'a pas voulu le voir, parce que, au fond, elle en avait un peu honte. Et que désormais, depuis quelques années, elle a décidé de sortir ses affaires, de les régler et d'éjecter en quelque sorte les moutons noirs. Non seulement parce que c'est important de se séparer des gens qui ne sont pas convenables, mais surtout parce que leur comportement est totalement contraire aux principes mêmes qui sont ceux de la maçonnerie. Et on rejoint là un autre aspect qui est indirectement évoqué par le juge Alphen, c'est celui du secret d'appartenance. Je fais partie de ceux qui pensent que quand on en a les moyens, la possibilité, il faut faire son outing maçonnique et dire « oui, je suis franc-maçon, je suis fier de l'être. Pourquoi ? Parce que j'appartiens à une institution qui, depuis près de 3 siècles, défend des valeurs intellectuelles et morales qui ont fondé nos États modernes et qui ont fondé le droit contemporain. »
Vous êtes vous-même maçon, et d'ailleurs vous dirigez une institution dont c'est l'objectif, je crois, hein, qui est l'Institut maçonnique de France, Roger Daché.
Oui, tout à fait, qui est en quelque sorte un outil commun entre les mains de l'ensemble des obédiences de la maçonnerie française, et qui a pour objet, en quelque sorte, de mettre en valeur et de mieux faire connaître le patrimoine historique et culturel de la maçonnerie française, qui, au fond, depuis près de 3 siècles, a contribué au génie français.
Merci, Roger Daché. Je rappelle donc que vous êtes aussi l'auteur d'une histoire de la franc-maçonnerie, publiée au PUF dans la collection Que sais-je, puis que vous avez dirigé aussi le livre collectif La franc-maçonnerie de la légende à l'histoire, publié conjointement par le magazine L'Histoire et les éditions Talendier. À lire également Les plus belles pages de la maçonnerie française, un livre collectif publié à l'occasion du 275e anniversaire de la maçonnerie française aux éditions Dervy. Vous avez pu entendre un extrait du film From Hell d'Albert et Alan Hughes avec Johnny Depp, Depp, disponible en vidéo chez Fox Pathé Europa, et également un extrait de l'anthologie du XXe siècle par la radio édité chez Frémaux et Associés. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Olivier Darrigade, documentation Virginie Bloch-Léné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, le plus célèbre et le plus téméraire des maréchaux de Napoléon, Murat, mais tout de suite à 14h30, très précis.